Bonjour et bienvenue au premier congrès virtuel francophone d'EFT. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse pour cette conférence sur EFT et dépendance. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Et les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Et ce cadre étant posé, j'ai le plaisir d'accueillir Joanne Desterel. Merci d'être avec nous, Joanne.
Oui, merci Maria de m'avoir fait une place dans ce congrès.
Bien sûr, c'est avec plaisir. Alors, permettez-moi de vous présenter en quelques mots Joanne Desterel. Joanne est partie des lettres pour aller vers l'être, parce que tout d'abord, elle était enseignante en lettres et elle a cultivé en parallèle son goût pour le développement personnel, étudiant à son tour la sophrologie, l'astrologie, la PNL, le Reiki et plein d'autres approches pour faire de l'énergétique une priorité et même son métier. Et en 2002, elle rencontre Louise Gervais et l'EFT. Et là, c'est le déclic qui permet de réunir tous les morceaux du puzzle et avec l'efficacité en prime. Et depuis 2004, Joanne pratique et enseigne l'EFT pour sa facilité d'utilisation aussi bien pour les personnes qui veulent en faire un usage personnel que pour l'adjoindre à leur pratique professionnelle. Son blog sur Internet s'appelle EFT Autonomie et je pense qu'on peut dire que c'est le mot d'ordre pour Joanne, de rendre les personnes autonomes grâce à l'EFT. Et vous trouverez l'adresse exacte de son blog sur le site du congrès. Alors, en introduction, Joanne, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots comment, toi, tu es venue à pratiquer l'EFT?
Est-ce qu'on ne sait jamais comment les choses se proposent à nous? Moi, je dirais qu'il y a une série d'événements que d'ailleurs tu as fort bien résumé à l'entrée. Mais c'est vrai que je suis animée par l'idée que l'EFT est un outil facile et que vraiment il peut être à la portée de tous pour rouvrir les portes de l'enfermement que nous avons l'art de combiner dans nos vies avec toutes nos problématiques de vie. Hein. Je ne sais pas si c'est ce que tu as envie que je te dise, mais je suppose que dans la vie, tous, enfin, quand je dis envie que tu te dise, c'est, je ne sais pas si c'est comme ça que toi-même, tu ressens l'EFT, mais c'est un outil tellement fabuleux dans le déclic qu'il apporte dans une vie que
oui, bien sûr.
Dès que je l'ai connu, je n'ai plus pensé à pratiquer autre chose. La sophrologie qui était vraiment un outil, un outil dans ma vie. La sophrologie, c'est peut-être la première pratique que j'ai découverte. Alors là, ça remonte à plus de 40 ans. À l'occasion d'une extraction dentaire, je n'ai pas souhaité une anesthésie générale qu'on voulait me faire en milieu hospitalier. Et donc, c'est sous un état sophronique que j'ai pu acquérir cette anesthésie. Et ce que j'ai découvert, sans aucun produit chimique, c'est les possibilités insoupçonnées que nous avons de reprendre le contrôle de notre vie, de notre corps. Enfin, nous avons vraiment cette capacité à transcender tous nos possibles. Et sur la douleur et sur la circulation sanguine, ça avait bien marché, sur la température du corps, et je m'aperçois que sur un ensemble de problématiques de vie, c'est la même chose.
Mmh. Alors, donc, si seulement à l'époque, tu avais eu l'EFT, peut-être que ça aurait été de la même efficacité et éventuellement plus rapide.
Et il y a 40 ans, je n'avais pas l'EFT.
Mais non, vrai. Personne n'avait pensé à l'EFT.
Relativement récent. C'est un outil très récent, l'EFT. Hein.
Oui, tout à fait.
Oui, même si...
Alors aujourd'hui, voilà, en fait, nous avons rendez-vous pour parler...
Pardon?
Oui, Qu'est-ce que tu disais?
Ah oui, je disais que c'est un outil très récent. Moi, je l'ai découvert donc en 2002 et c'était, oh, qu'est-ce que c'est que cette chose qui est tellement simple et qui marche? C'est la simplicité qui m'a étonnée. Vraiment
oui,
la simplicité.
C'est la simplicité qui est étonnante, effectivement. Et tu sais même que c'est difficile rapide à intégrer parfois.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est ça qui m'a, dans un premier temps, demandé de me poser quelques mois, mais c'est tellement facile, comment je vais faire quelque chose d'aussi facile? Ça, c'est pas quelque chose que j'avais intégré spontanément dans mes gènes. Les choses vont être compliquées. Et là, non, pas du tout. Donc, un an, deux ans, et puis voilà, j'étais prête à avancer avec.
Oui, c'est tout à fait mon expérience aussi.
Oui.
Donc, je comprends, je compatis. Alors aujourd'hui, Joanne, nous avons rendez-vous pour parler de EFT et dépendance. Et dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le principe même des dépendances?
Alors, d'abord, il faut bien distinguer, enfin, il y a plusieurs sortes de dépendances. On met plein de choses, hein, sous le mot dépendance au sens classique. Il y a les addictions à des substances. L'alcool, le tabac, la drogue, on peut avoir des comportements alimentaires aussi avec une addiction à un aliment particulier, le chocolat, le sucre, le café. Et puis il y a des addictions comportementales, sans substance aucune, le jeu par exemple, ou bien des achats compulsifs. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne les jeux, on a vu émerger des attitudes addictives à Internet depuis quelques années. C'est très, très fréquent. Hein. En plus des jeux, les jeux d'argent, les jeux de hasard, voilà. Donc, la dépendance, c'est d'abord une absence d'indépendance et de liberté par rapport à un comportement que l'on n'a plus la possibilité de contrôler. On arrive à un moment où la poursuite de ce comportement se fait en dépit de la connaissance que l'on a même des conséquences négatives. Donc on a perdu le contrôle. Voilà. C'est dans cela que c'est un esclavage. Alors, je ne sais pas si dans ta question, il y avait une explication de ce que sont les mécanismes de la dépendance. Mais comment fonctionne
une dépendance? Oui, bien sûr, oui, ça serait intéressant d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
Oui, parce que sans vouloir faire un exposé savant, hein, c'est vraiment en lien direct avec les fonctions primitives du cerveau. Le cerveau limbique et émotionnel, celui qui est programmé pour la survie, la protection, voire s'alimenter à tout prix parce qu'il faut vraiment se protéger, répondre à des besoins premiers. Et au cœur du processus, une structure neurale majeure du cerveau, le noyau accumbens, qui est impliquée dans ce qu'on appelle le système de récompense, la sensation du plaisir, et donc le contrôle de nos motivations. Il y a deux neurotransmetteurs, qui sont des composés chimiques libérés par les neurones, et qui agissent sur d'autres neurones, et là on a une réaction en chaîne. Alors il y a deux neurotransmetteurs, disais-je, la dopamine d'un côté et la sérotonine de l'autre. Deux neurotransmetteurs, mais vraiment essentiels, dont il faut bien comprendre le rôle et pour comprendre comment s'organise ce système de récompense. La dopamine, elle va favoriser le désir, l'envie, et nous pousser à l'action. Elle va stimuler à l'action, comme un amplificateur. Et la sérotonine va au contraire apporter un sentiment de satiété, de satisfaction, et apporter l'inhibition de cette action que j'avais entreprise. En gros, c'est l'antidote. Ben, je prends un exemple simple. Hein. J'ai soif, vraiment très soif. Je vais être préoccupée par l'idée de trouver quelque chose pour étancher ma soif. Et je vais boire un bon verre d'eau. Et immédiatement, un message de satisfaction va être donné et le cerveau, sécrétant la sérotonine, va éteindre le besoin de continuer. Ça, c'est tout simple. Alors, ces deux neurotransmetteurs ne sont pas coupés des autres fonctions du cerveau et justement fonctionnent en étroite relation avec d'autres centres impliqués dans les mécanismes du plaisir. Je signale rapidement ces deux autres fonctions du cerveau limbique qu'on trouve impliquées dans les processus de dépendance. Il y a l'amygdale qui colore affectivement les perceptions. C'est agréable, c'est désagréable. Et voilà un point important pour nouer d'abord cette sensation, ce besoin, cette dépendance qui va se mettre en place. Et l'hippocampe qui enregistre les détails associés, c'est-à-dire l'environnement, une mémoire par association. Et on imagine tout de suite le rôle qu'elle va pouvoir jouer. Alors, comment ça se passe en pratique? Une situation de manque, ou qui peut être d'ailleurs parfois interprétée comme une menace, va motiver à l'action, et cette motivation à agir est en relation directe avec le degré d'inconfort que j'éprouve. Faim, anxiété, stress, besoin sexuel, peur, voilà. Et immédiatement, la dopamine qui est sécrétée traduit d'ailleurs l'importance de ce besoin, puisque la dopamine sera plus ou moins élevée. Dans la vie réelle, et là, il y a une distinction importante qu'on va faire, dans la vie réelle, une fois le besoin comblé, la menace est écartée et la sérotonine délivre un message de paix, un message de satiété, de bien-être. Le système de récompense a fonctionné. Mais le problème avec les addictions, c'est que nous réagissons à nos pensées, nos émotions, nos perceptions, plus qu'à un besoin réel. Mais nous réagissons comme si ce besoin était réel. Un comportement addictif, compulsif, répond au besoin de se sentir mieux, mais à un besoin supposé. Alors, tu imagines bien que contrairement à ce qui se passe dans une situation réelle, face à un danger réel, face à une menace de survie, à une peur objective, le signal de faim n'existe pas en réalité non plus. Il n'y a aucun indicateur de satiété, de satisfaction, pas de limite, pas de frein précis. La sérotonine n'est pas déclenchée par le cerveau. Je voudrais juste donner un exemple, une expérience qui a été faite sur des rats. Elle est connue, cette expérience, hein. On a privé les rats de la sérotonine, et ce qu'on a vu, c'est qu'ils se lançaient dans des activités sexuelles effrénées et n'arrêtaient pas de manger, ce qui montre bien la conséquence directe sur le mécanisme de la dépendance. Il est très important d'activer la sérotonine.
D'accord.
Dans le cas des addictions à une substance particulièrement, il y a pire. C'est que l'accoutumance fait que le degré de besoin augmente, donc la dopamine. Et le soulagement est de moins en moins obtenu, puisque la sérotonine, qui déjà n'est pas sollicitée par le signal de faim, se trouve réduite à l'extrême. Et on connaît bien le processus avec certains médicaments déjà. Hein?
Oui.
Voilà. Et donc, voilà résumé, en gros, les grandes lignes du mécanisme. Mais on voit bien que ce sont des facteurs psychiques, plus que physique en lien avec l'objet de la dépendance, qui menace la guérison d'un comportement de dépendance, d'un comportement addictif, puisqu'il s'agit d'un besoin supposé.
Oui, ce qui explique bien la réaction différente d'une personne à une autre, à une substance donnée.
Absolument, absolument. Oui, parce que chaque substance va agir différemment. D'ailleurs, il y a des études très précises faites sur chaque type de drogue et les endroits précis du cerveau. Bon, on ne va pas se lancer là-dedans. Mais c'est vrai que c'est bien connu.
Voilà. Et pour certaines personnes, il y aura dépendance et pour d'autres pas.
Ah oui, voilà. Voilà, bien sûr. Ce sont les facteurs psychiques. Voilà. Tout commence par le plaisir, hein. C'est vrai. Il y a d'abord du plaisir. Si je prends le cas des jeux, on joue pour le plaisir au départ. Mais progressivement, on est de plus en plus accroché, et progressivement, on est de moins en moins en mesure de contrôler. Et il y a cette perte de contrôle qui fait que les neurotransmetteurs au niveau du cerveau ont déclenché l'action et prennent la direction des opérations. Et là, quand ces comportements prennent la direction de notre vie, c'est simple, on pourrait parodier un titre bien connu, mais y a-t-il encore un pilote dans l'habitacle, hein? Ou est-ce que nous avons
ça,
notre puissance personnelle?
Oui. Alors, pour rattraper, pour récupérer son autonomie et pour récupérer son contrôle. Comment, dans ton expérience, l'EFT peut-il aider lorsqu'on est aux prises avec ce genre d'habitude néfaste?
Et oui, et je dirais même que l'EFT est tout indiqué, un outil tout indiqué. D'abord parce que ce qu'on veut faire, c'est casser le pilotage automatique inconscient. Et je voudrais rappeler tout de suite le champ d'action de l'EFT. L'EFT, justement, se préoccupe de libérer les émotions. Et dans le domaine des dépendances, on est justement en plein dans le règne des émotions, mais des émotions qui se cachent, qui ne peuvent même pas se dire. Donc il va falloir ruser, il va falloir tout faire pour débusquer le facteur stressant, le plaisir recherché ou le plaisir éprouvé avec une drogue ou une substance ou un comportement. Quel est ce plaisir? C'est justement ce plaisir attendu qui est au cœur du problème et que je vais chercher dans un objet de substitution. C'est le facteur qui a conditionné l'inscription qui fait obstacle à la tranquillité. Et le substitut, je veux bien insister là-dessus, est un choix d'évitement. Et c'est ce choix d'évitement qui empêche de régler le problème de fond. Et quand l'évitement est à ce point fondamental, on assiste à des comportements totalement dysfonctionnels, aberrants. Je pense à cette histoire bien connue que nous raconte Saint-Exupéry dans son ouvrage à la portée de n'importe quel enfant, Le Petit Prince, où le petit prince visite différentes planètes et il arrive sur la planète du buveur. Et là, il voit, et je l'imagine bien avec ses yeux ronds, il voit cet homme qui boit et il lui demande « Mais pourquoi tu bois ?» Et le buveur lui dit « Pour oublier. » Et « Pour oublier quoi ?»« Pour oublier que j'ai honte. Oh, »« Tu as honte et tu as honte de quoi ?»« Que j'ai honte de boire. » Et c'est vraiment un cercle vicieux, cette sorte d'engrenage.
Oui.
Et c'est ça qu'on va casser, qu'on veut casser avec le EFT. Quand je dis qu'on veut casser, on veut juste devenir plus conscient de ce qui se passe. Alors, la traque du fauteur de trouble, débusquer, découvrir le coupable, puisqu'il s'agit presque d'un jeu de détective, hein. On va pister, rechercher,
oui,
enquêter. On n'a jamais l'obligation de mettre le doigt sur la cause, hein, avec le EFT. On n'est pas là pour comprendre pourquoi ça se passe, ni pour pouvoir l'expliquer. On veut juste savoir comment ça se passe. C'est pas le pourquoi qui nous intéresse, c'est le comment c'est quand tu fais ça. Comment ça...
Oui.
Et voilà, on veut juste devenir conscient. Et en travaillant sur les symptômes simplement, on a une porte d'entrée tout à fait satisfaisante. En tout cas, pour ma part, je trouve que ça m'aide beaucoup dans les séances d'aller chercher ces manifestations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'EFT? Ce qui compte, je disais, c'est de toucher le ressenti, le manque, voir qu'est-ce qui me fait si peur, qu'est-ce que... Voilà, donc ce sont les associations dans les coulisses de l'inconscient qui vont pouvoir se faire sans qu'il soit nécessaire d'expliquer. Ce manque premier, ça peut être aussi simplement le manque du substitut. Si je ne sais pas ce qui m'a manqué la première fois, je sais peut-être ce qui me manque quand je n'ai pas, eh bien, par exemple, la cigarette, quand je n'ai pas ce chocolat dont je crois ne pas pouvoir me passer. C'est toujours le même manque. C'est toujours le même processus, que ce soit le manque premier ou ce manque-là. Et bon, je vais avoir des séries de questions à pouvoir poser. Si tu veux, on pourra s'attarder plus longuement tout à l'heure, mais je vais chercher comment ça se passe. Comment ça se déclenche quand tu as cette envie de... quelle que soit cette envie d'aller tout simplement chercher des tas de choses dans les magasins. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La personne va être invitée à observer son comportement, mais cette fois-ci, non plus comme ce robot impuissant qui assiste juste à un comportement et qui occulte toutes les motivations, qui occulte... Non, non, tout simplement, elle observe. On va l'amener à observer, sans culpabilité, hein. Qu'est-ce qui me fait tellement peur? Voilà, on peut aller chercher. Quelle est la pensée juste avant que tu allumes la cigarette? Qu'est-ce qui se passe? En un mot, sentir ce qui se passe en moi et ce qui se vit dans mon corps. Parce que c'est dans le corps que ça se vit. Hein. on peut chercher.
Et comme tu disais, dans le cercle vicieux du buveur de Saint-Exupéry, c'est vrai qu'il y a souvent une grande culpabilité, il y a la honte autour de ces problématiques.
Ah ouais, c'est pour ça que je
trouve. Donc déjà, de pouvoir enlever ça, grâce à l'EFT, ça peut diminuer le stress.
Et oui. Parce que c'est vraiment, en plus, c'est pas la peine de s'en ajouter une couche, hein. Ça devient assez embêtant quand on a ces comportements qui se mettent en place, hein, qu'on a laissé le pilotage se faire à notre insu, hein.
Oui.
Ça me fait penser à ce que tu rappelles, qu'on ne veut pas chercher à s'empêcher de faire les choses. Je ne veux pas chercher à empêcher la personne de fumer, ni à l'empêcher de manger du chocolat. Je dirais même que c'est le contraire. Je ne veux pas non plus chercher à la pousser à le faire, c'est pas ça. Je veux juste faire cesser.
Mais parfois, ça peut passer par là, d'ailleurs.
Pardon ?
Parfois, ça peut passer par là aussi.
Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.
Oui, je disais juste que parfois, ça peut passer par là. Ça peut passer par le fait d'en manger plus.
Bien évidemment. Donc, on veut faire cesser ce comportement qui se répète pour casser le pilotage automatique et retrouver la conscience, reprendre les commandes. Mais bon, surtout enlever, comme merci de l'avoir rappelé, cette culpabilité. Hein. La volonté et l'évitement systématique des tentations ne peut pas résoudre une assuétude. Bien au contraire, hein, puisqu'on va s'interdire de répondre au besoin qui est là si on fait ça. Si on veut, par la volonté, casser ce comportement, c'est comme si on niait la demande du besoin qui est là. Par exemple, dans le cas du manque affectif, dans le cas d'une dépendance relationnelle plus exactement, c'est comme si je ne voulais pas voir le manque affectif qui est derrière. Oui, il y a tout un tas. Puis chaque exemple, bien sûr, sera unique, hein.
Bien sûr. Alors justement, est-ce que dans ta pratique, tu abordes de la même manière une dépendance affective et une addiction à la cigarette ou une autre substance?
Alors, il y a plusieurs choses que je pourrais dire là. Je dirais que, les mécanismes de dépendance restent identiques, hein, qu'il s'agisse de n'importe quel type de dépendance. Dans le cerveau, un lien existe entre la peur de ne pas avoir, la peur du manque, la peur, toutes les peurs qu'on veut, et les petites habitudes de sécurité, comme se protéger des autres, se protéger du monde, qui ne sont que des projections de notre esprit. Ce qui par contre diffère, ce sont les conditions extérieures ou intérieures quand il s'agit des pensées particulièrement, ce sont les conditions qui font naître le besoin. Sous l'aspect environnement, les facteurs associés. Je parlais tout à l'heure de cette mémoire par association dans le cerveau. Ce sont des facteurs qui dépendent de chacune des personnes et des addictions parfois. Mais même à l'intérieur d'une addiction identique, par exemple, je prends l'addiction au café, parce qu'il ne s'agit pas de prendre un petit peu de café, mais en consommer comme ça jusqu'à avoir mal à la tête, ne plus pouvoir dormir alors qu'on sait que c'est vraiment néfaste, mais ne pas pouvoir s'arrêter, ça vaudrait peut-être la peine de revenir un petit peu sur ce comportement inconscient. Hein. Donc chacun va avoir un environnement qui lui est propre. Mais la traque, elle est la même. Je vais chercher les éléments déclenchants, les éléments associés, et surtout je vais essayer de traquer les émotions que la personne évite soigneusement, toutes les émotions qu'elle rejette. Alors, il peut être intéressant de savoir que dans certaines dépendances à des substances, il y a par exemple des aspects qui conditionnent cet attachement, comme les aspects gustatifs, des aspects tactiles, l'aspect olfactif, en plus des facteurs sociaux, de l'intérêt, du désintérêt que cela procure. Hein. Mais il faut toujours aller chercher la peur qui est derrière. Ça, c'est le premier point. Je dirais que dans le cas des dépendances, la part la plus importante du travail, à mon sens, ce sont les résistances qui sont là. Les résistances à lâcher l'addiction. Voilà, parce que si je perds ça, il me reste quoi? Il me reste.
Oui, qui suis-je?
Vous voyez, je veux juste expliquer une chose. Ça me rappelle une séance avec un ami particulièrement qui voulait arrêter de fumer et qui me dit: ah, je voudrais que tu me montres comment je peux arrêter de fumer. Ben, j'ai dit: si tu veux, on peut faire une séance. Oui, oui, je veux voir. Et je lui demande d'attraper une cigarette. Non, mais attends. Et celle-là, je vais la fumer. Et il commence à se défendre. Non, je veux la fumer. Je veux voir comment ça se passe. Mais je ne veux pas arrêter aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est. Voilà. Il y a tout un mécanisme là. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, en insistant sur cette peur-là, sur cette résistance-là, je crois qu'on peut aller souvent beaucoup plus loin que simplement en traitant globalement. On ne peut pas traiter globalement. Je pense à cet exemple, hein. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce que je me souviens quand même, une deuxième fois, il est venu et il me dit: écoute, voilà, aujourd'hui, je veux faire une séance sur la cigarette, mais je veux pas arrêter aujourd'hui. On était un samedi. Je veux pas arrêter aujourd'hui. J'ai décidé que j'arrêterai lundi. Alors, d'accord. Tu vois bien là tout l'espace qu'il y a pour les résistances.
Oui.
Et nous avons fait la séance malgré tout, mais chaque fois il se défendait d'arrêter ce jour-là et il me dit: mais tu vas pas m'empêcher de la fumer. Mais j'ai dit: je n'ai pas du tout l'intention de t'empêcher. Et à la fin de notre séance, il me dit: bon, je vais fumer. Et vite, il part sur la véranda, sous la véranda, et il revient presque aussitôt. Il me dit: elle est dégueulasse.
Oui,
mais j'arrêterai, mais lundi. Et donc, il s'est presque obligé à fumer encore parce qu'il avait décidé que ce serait lundi.
Qu'il s'était dit que c'était lundi, c'était pas samedi.
Et voilà. Alors, voilà, on peut s'amuser, on peut tourner longuement, hein. Voilà, mais
oui, dans le cas j'ai souvent eu la même réaction. Quand j'ai travaillé avec des personnes sur la cigarette, il y a eu la même réaction. Bon, tu peux pas m'empêcher de la fumer, et après, elle n'a pas de goût, elle n'est pas comme d'habitude. C'est pas normal. Et parfois, les gens m'en veulent.
La personne qui est vraiment motivée pour arrêter peut comprendre que ça va être une aide vraiment très intéressante. Très intéressante.
Oui. Tout à fait. Et ce qui est intéressant à constater, c'est cette diminution d'envie chez des personnes qui n'ont même pas l'intention d'arrêter de fumer. Je trouve ça impressionnant.
Oui, mais alors là, on parlait de quelqu'un qui était quand même venu pour en parler, mais sans la véritable intention.
Voilà.
Par contre, je pourrais prendre des exemples. Deux personnes qui ont vu leur penchant pour la cigarette tellement baissé que sans y songer, elles se sont détachées de la cigarette dans les jours qui ont suivi une séance, alors qu'il n'avait rien à voir avec la cigarette. Alors, on en reparlera tout à l'heure peut-être, parce que je voudrais continuer dans le cas des résistances avec un exemple sur les kilos. Il y a plein de personnes qui déplorent cette surcharge de graisse, de gras, de kilos, enfin bon. Et la personne peut se trouver tout à fait détestable, avoir honte de son corps, ne pas vouloir se mettre en maillot de bain, voilà. Mais ça n'empêche que les kilos sont là. Et l'action de la volonté, on voit bien, elle ne joue pas. C'est un peu le même exemple que pour la cigarette. Mais donc, on va aller chercher qu'est-ce qui me fait le plus peur. De quoi est-ce que j'ai le plus peur si je n'ai pas tous ces kilos? Alors, on pense naturellement à des comportements de protection inconscients. La personne peut avoir... Moi, j'ai trouvé ces cas dans mes séances d'une personne qui a peur de tomber malade si elle n'a pas ces kilos que j'appelle des kilos de santé. Ça rappelle tout l'aspect de l'histoire du bébé, peut-être un bébé en bonne santé qui a les bébés gigos, peut-être. Ou bien perdre la santé retrouvée. Après, quand une personne a vécu une difficulté de santé et qu'elle a récupéré la santé avec les kilos. Et là, ça peut devenir une peur profonde de perdre la santé en même temps que les kilos. Ou bien la peur d'exciter le désir des hommes, cette fameuse sourde culpabilité de la femme qui doit cacher son corps, sinon, qui sait ce qui va lui tomber dessus, et si les vêtements ne suffisaient pas. Ou bien la peur aussi de trahir le clan, la ressemblance par-dessus tout à des modèles, même si justement il y a rejet et souffrance de rejet de la part de ces modèles. on peut trouver encore, je sais pas moi, le désir de se montrer fort, en fait, toutes ces choses bien connues. Et donc, on va chercher toutes ces résistances à lâcher les kilos. En fait, on va profondément dans l'histoire de chacun. On va rencontrer dans l'histoire un facteur qui a pu conditionner cette nécessité d'avoir les kilos. Ça aussi, c'est une dépendance à une peur. Voilà.
Oui, tout à fait.
Les achats compulsifs ne procèdent pas des mêmes peurs, mais ils fonctionnent aussi, le processus est le même, ils fonctionnent de la même façon. C'est pour ne pas se trouver en face du pire. Et c'est là qu'on va chercher la résistance.
Oui.
Donc, on rappelle encore, pister, rechercher, enquêter, c'est une piste de détective. C'est super le FT pour ça. Et c'est donc utile de combiner le travail personnel avec l'aide d'un praticien expérimenté, là. Hein. Parce que les résistances, quand on a le nez dessus, c'est bien. Mais quand on y est assis dessus, on ne les voit pas.
Oui, effectivement. Alors justement, même si le mot d'ordre de ton blog et de ta pratique est l'autonomie, est-ce que dans le cas précis des dépendances, tu considères que les personnes peuvent travailler seules ou est-ce qu'il est indispensable justement d'avoir l'aide d'un thérapeute? Quelle est ton expérience avec ça?
Oui, je dirais que c'est bon de combiner les deux parce que dans le cas des dépendances, la résistance est vraiment l'obstacle le plus souvent. Et moi-même, je dirais que si je n'arrive pas à régler une situation, il me sera fort appréciable d'avoir quelqu'un en face pour me renvoyer un petit peu dans mes retranchements. Donc, dans le cas des dépendances, c'est vrai que l'aide d'un praticien expérimenté, je dirais, est plus qu'indiquée. Mais ça n'exclut pas du tout le fait de travailler seul. Moi-même, j'ai expérimenté cet outil sur moi avec, par exemple, une dépendance à des desserts lactés d'une marque bien particulière. Alors là, vraiment, il y avait un élément important côté goût. Pendant plusieurs années, hein, j'en ai eu dans le frigo plus qu'il n'en fallait pour tenir un siège. Parce que
au cas où, donc ça correspondait bien à une peur.
Voilà. Une peur, un besoin, je ne sais pas laquelle. Mais j'ai pas eu besoin d'aller chercher ni la peur ni la raison. Hein. Il se trouve qu'à force de répéter un petit scénario avec le FT, un petit scénario, une petite ronde, une petite séquence, sans même savoir très précisément tout ce qui se jouait dans les coulisses, j'ai progressivement décroché quelque chose. Parce que un jour, il m'est arrivé la chose suivante. Je faisais mes courses comme d'habitude. La première chose que je faisais quand j'arrivais au supermarché, c'était aller au rayon où je les trouvais. Et là, j'en prenais 1, 2, 3, 4 paquets. Et tranquillement, un jour, je passe devant le rayon. Oh, bon, non, j'en ai pas envie. Et tout d'un coup, je réalise que je n'en ai pas envie. Mais je me dis, maintenant, j'en ai pas envie. Mais peut-être que, en cas, j'en prends un paquet. Donc, j'en prends un paquet. Eh bien, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai laissé perdre au frigo. Et je ne l'ai pas fait exprès. J'ai dû les jeter. Wow. Je n'avais tout simplement plus envie.
Voilà. Tu n'en avais plus simplement plus besoin.
Voilà, oui, mais voilà, mais comme c'est l'envie, enfin le besoin, mais en fait, c'est cette espèce de plaisir, oui, ni besoin, envie, plaisir, au fond, quelle importance. Oui. Je les ai jetés et ça a été terminé. Et puis, je peux en avoir dans le frigo pour en offrir si quelqu'un les aime, ça ne va pas me tenter. Ça ne me dégoûte pas non plus, hein. C'est totalement indifférent.
Alors, mais tu as récupéré le contrôle par rapport à ce dessert.
Voilà, voilà. Mais ça s'est fait, j'ai envie de dire, par la persévérance, sans même aller chercher, je suis allée chercher comment je le ressentais sur la langue, qu'est-ce que ça me faisait quand je le mangeais, j'ai évoqué tout ça. Mais ça, à force de le répéter, c'est la persévérance à l'EFT hein, qui va énormément opérer. Donc, je crois que si on a une bonne connaissance de base de l'EFT, parce que ça c'est quand même utile, hein, on peut ajouter énormément à cette libération. Je te remercie d'avoir pointé le nom de mon blog avec autonomie, parce que vraiment, c'est ça qui est fabuleux à l'EFT. Récupérer son pouvoir personnel.
Oui,
retrouver sa pleine puissance, reprendre le gouvernail, récupérer oui. l'indépendance et l'autonomie. Et ça, voilà, c'est top. Moi, par rapport à cet exemple que je donne, ben, je trouve que c'est une belle expérience.
Oui, tout à fait. Alors là, tu nous donnes un exemple où tu as travaillé spécifiquement sur le problème que tu avais, le petit problème, on est d'accord, c'était pas à oui. la fin du monde, mais cette habitude que tu avais à manger ce dessert. Est-ce qu'on est à chaque fois obligé de parler spécifiquement de ce problème-là ou est-ce qu'on peut travailler plus généralement?
Ah, mais merci de me poser cette question. Parce qu'effectivement, après que tu m'aies suggéré de prendre le sujet des dépendances, je te remercie d'ailleurs de l'avoir fait parce que moi-même, si tu m'avais dit qu'est-ce que tu aimes traiter, j'aurais eu peut-être plus de difficultés à trier parmi les sujets qui m'intéressent puisque je traite à peu près, bon, je réponds aux besoins des personnes qui se présentent. Mais j'ai mieux observé ce qui se passe et je me suis rendu compte que finalement, j'avais bien souvent eu, à l'issue de séances de FT, parfois une simple séance, parfois deux ou trois, mais souvent une simple séance. Ben, j'avais très souvent vu des personnes me dire « Ah, je fume plus. Ah, j'ai perdu quelques kilos. » Je pense précisément à une personne qui s'était inscrite à un de mes ateliers et qui avait pu voir traiter un sujet où elle était totalement terrorisée dans une situation particulière. Et on a juste libéré ça. Je l'ai revue un mois et demi après et elle arrive toute excitée, tenant la ceinture de son pantalon et le tirant. Regarde, regarde! Et effectivement, elle avait perdu une bonne taille de pantalon. Il fallait qu'elle le serre, mais il faut que je change la garde-robe. Et voilà, c'était un effet inattendu. Ces effets secondaires positifs, ce que j'appelle, moi, les bénéfices collatéraux, on obtient ça avec, on obtient ça avec des cigarettes. J'ai le cas sur mon blog, si des personnes ont la curiosité d'aller voir, il y a l'histoire de Mélanie, qui se souvient de la difficulté du divorce de ses parents quand elle avait, de la séparation de ses parents quand elle avait 11 ans, et qui tout de suite s'est détachée de la cigarette sans y songer, et qui est revenue après en me montrant et ses ongles qu'elle ne rangeait plus, et en me disant, bon, je fume presque plus, mais plus, enfin, voilà, bon, je ne savais pas qu'elle fumait, elle ne m'en avait pas parlé. Ou bien le cas de ce monsieur, qui s'appelle Gilles. Et on traite avec lui, on fait un petit parcours sur une histoire qui concerne la mort de son papa. Et en cours de séance, comme ça, tout à fait par hasard, il s'est souvenu de quelque chose qui était contraire au problème qui lui paraissait être la réalité. Il a partagé avec son père une cigarette dont il sentait le goût de miel. Et on a juste tapoté sur ça. Et dans la semaine qui a suivi, il n'avait plus envie de fumer. Alors, son projet, par contre, à lui, n'était pas d'arrêter de fumer, ce qui fait que il a gardé une petite habitude, mais il aurait pu poser la cigarette, ça ne lui aurait pas du tout manqué, c'est ce qu'il m'a eu dit par la suite. Alors, donc, effectivement, on n'a pas besoin de traiter spécifiquement le problème et de le cibler. Travailler sur soi d'une manière générale permet de réduire des facteurs de stress. Les effets positifs d'une séance peuvent débloquer, détendre un comportement de défense, un comportement de protection. Et je dirais même que le fait de vouloir résoudre à tout prix un problème peut aboutir à l'inverse, à le nourrir, à le faire perdurer. Et il est presque parfois plus avantageux de prendre des chemins détournés. Et puis tu sais bien tous les chemins.
Oui, de passer par la petite porte.
Et voilà. Mais je voudrais souligner encore que dans l'enseignement de Gary Craig à propos de l'EFT, il y a cette procédure de paix personnelle qui est un chapitre tellement magnifique de son enseignement qui consiste à traiter à l'aide de l'EFT tous les événements de notre vie que nous aurions préféré ne pas vivre ou bien que nous n'aurions pas voulu vivre de cette façon. tous ces événements du passé qui nous reviennent à la mémoire sans raison apparente et même sans qu'on puisse retrouver l'intensité émotionnelle que nous avions en les vivant. Mais toutes les relations que nous aurions préféré avoir évitées, toutes ces choses que Gary appelle les événements spécifiques non résolus de notre vie. Ben, simplement en faisant cette procédure de paix personnelle, on va alléger énormément de facteurs de stress, de raisons de rester dans un comportement d'anxiété. Toutes nos expériences et tous nos ressentis sont imprimés à l'intérieur de nous. La clé est en nous et nulle part ailleurs. Et c'est pourquoi... Quand on fait une promenade dans ces expériences émotionnelles, ça peut être d'un bénéfice, mais inestimable.
Tout à fait. Et c'est là qu'on constate souvent ces bénéfices collatéraux, comme tu dis si bien.
Voilà.
Donc un processus de paix personnelle peut permettre de régler des problèmes qui ne sont pas forcément dans la liste des problèmes à traiter.
Voilà, exactement.
C'est formidable aussi avec l'EFT.
Il s'invite tout seul. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est des êtres complexes, mais d'une complexité magnifique. Parce que finalement, on a plein de portes d'entrée pour aboutir à détendre le ressort difficile, quoi.
Oui.
Tout est interconnecté, tout est interrelié.
Alors, Joanne, pour illustrer les bienfaits de l'EFT en cas de dépendance, il me semble que tu nous as préparé un petit protocole de démonstration.
Alors, pas tout à fait, parce que quand tu m'en as parlé, je t'ai dit, moi, tu sais, les protocoles, moi, je travaille pas tellement avec des protocoles. Mais par contre, j'ai réfléchi pour proposer des pistes, bien sûr. Parce que, je ne travaille pas avec des protocoles tout faits pour une raison simple, hein. C'est que chaque fois, les éléments environnementaux de l'histoire de la personne vont différer. Donc, j'utiliserai plus des pistes que des phrases toutes faites. Mais alors, par exemple, pour parler d'une addiction connue, l'addiction à la cigarette, combien de personnes envisagent d'arrêter de fumer ? Et combien de personnes sont handicapées avec ce comportement qui décide presque à leur place. Alors, parmi les pistes que je retiendrai, il y aurait par exemple chercher à savoir quand la personne a commencé à fumer. Qu'est-ce qu'elle vivait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a une raison claire dans son esprit pour avoir commencé? Ou bien chercher aussi les modèles qui fumaient autour de vous, dans la famille. Et à part vous, est-ce que quelqu'un d'autre fumait dans la famille ou autour? Je chercherai aussi à savoir si la personne a déjà abandonné une première fois ou plusieurs fois la cigarette. Et ce qu'elle pense sur le fait qu'elle a repris. Parce qu'elle peut avoir peur de se décevoir à nouveau. Et là, ça peut être un facteur, on va dire aggravant, un facteur qui complique la situation. Savoir peut-être qu'est-ce qui a été efficace quand elle a arrêté une première fois, mais surtout pourquoi elle a recommencé. Et qu'est-ce qui fait qu'elle se sent plutôt prête maintenant qu'à un autre moment. Après, je pourrais me demander quels sont les avantages, selon elle, d'abandonner la cigarette. Qu'est-ce qu'elle fait comme choix en abandonnant la cigarette ou qu'est-ce qu'elle croit faire comme choix? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la liberté? Puis quels sont les désavantages? Alors ça, c'est quand même beaucoup plus important encore que les avantages. Parce que les avantages, les gens qui veulent arrêter de fumer, ils en ont des listes. Mais ce sont des listes qui sont devant eux, mais un peu loin. Alors, quels sont les désavantages? C'est une question très importante parce que on peut tapoter sur tous ces facteurs-là. La personne peut avoir peur de ne plus savoir comment se comporter, alors même qu'elle a très envie de vouloir. C'est l'envie du vouloir, alors qu'elle veut, elle dit vouloir arrêter. Mais elle peut se sentir un peu perdue.
Oui.
Donc, ça, ce sont des listes qu'on peut faire avec elle et tapoter systématiquement sur tout ce qui se présente à son esprit. Alors ça, c'est pour commencer. Je voudrais juste donner un exemple avant d'aller plus loin, d'une dame qui avait commencé à fumer, elle a fumé 16 ans, et elle avait commencé à fumer lors d'une rupture amoureuse. L'homme qu'elle aimait, qui avait bien sûr toutes les qualités qu'elle n'arrivait pas à détester, hein, elle le visualisait toujours avec une chemise bien particulière, tenant une cigarette et fumant d'une manière magnifique. En plus, il y avait une odeur qui allait de pair, et à partir du moment où il l'a quittée pour une autre, elle n'avait plus qu'un désir, c'était incorporer sa présence, quoi. Et en fumant, elle avait comme l'impression, eh bien, qu'il était là. Et alors, ce qui était terrible en plus, c'est que pour elle, c'est une personne qui avait presque milité, on va dire, pendant quelques années, contre la cigarette. Dans sa famille, il y avait des personnes qui fumaient, elle leur faisait une guerre pas possible. Donc, en cédant à la cigarette, il y avait aussi ce profond désespoir d'abdiquer sur tout ce qui avait eu de la valeur pour elle, enfin, etc. Et donc, c'était intéressant d'écouter son histoire, parce qu'à partir de là, on a pu tapoter sur le vrai problème pour elle d'arrêter de fumer. Et oui, on voit bien, si elle arrêtait de fumer, elle perdait définitivement cet homme. Elle perdait définitivement tout ce qui avait donné du sens à sa vie pendant des années. C'était comme si elle ne pouvait même pas envisager d'en rester là. Bon, après, bien sûr, elle a pu lâcher ce comportement. Et du coup, ça a été une sacrée libération. Hein, parce qu'elle a pu se doter d'autres expériences, enfin, d'autres rencontres tout à fait positives. Alors, je vais ajouter juste.
Non, c'est intéressant de constater cette double dépendance, du coup.
Voilà.
Aussi bien à cette relation toxique qu'à la substance de la cigarette.
Et voilà, tout à fait. Et donc, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est pour ça que je prends pas de protocole. J'écoute ce que va me dire la personne. Alors, après, ce que je peux faire, je peux aussi demander à la personne, comme j'avais fait avec l'ami dont j'ai parlé, de sortir son paquet de cigarettes, de le toucher, puis de sortir une cigarette, de la sentir, et de mesurer l'intensité du désir ou du besoin qui est là. Et on peut tout de suite penser sur, même si j'ai un besoin de fumer maintenant, que je n'ai pas besoin de savoir comment il est ce besoin, la personne le sait. Elle va m'en parler de toute façon, mais même si j'ai ce besoin de fumer, quand elle dit si j'ai un besoin de fumer, pour elle, ça a du sens. Hein?
Oui, bien sûr.
Je peux aussi trouver des astuces, comme faire dire à la personne à haute voix, j'abandonne la cigarette, après lui avoir fait toucher le désir. Hein? J'abandonne la cigarette, et en lui rappelant qu'il ne s'agit pas simplement d'une idée pieuse, d'un vouloir gentil, mais simplement d'une réalité. Dis-moi que tu abandonnes la cigarette et que tu fumeras plus. Et bien, immédiatement, il y a une intensité, un inconfort qui monte et une anxiété, ça en est sûr. Donc, on mesure cet inconfort, l'intensité qu'il a, et on va tapoter pour réduire cet inconfort. L'inconfort qui se fait jour rien qu'à la pensée de laisser la cigarette. C'est vraiment important de savoir que nous réagissons à nos pensées et à nos croyances aussi fortement que si c'était la réalité. Et donc, on voit bien que c'est une aide importante à l'EFT. Alors, après, dans les techniques possibles à utiliser, demander à la personne de se connecter à ses trois moments préférés, ou un ou deux moments préférés, pour fumer dans la journée. D'imaginer la situation pour chacun de ces moments, jusqu'à sentir le désir ou le plaisir, ou au contraire, la pensée de rejet est là, à l'idée de la personne qu'elle est quand elle ne peut pas s'empêcher de fumer. Je vais prendre ce qui se présente. Hein. Par exemple, imaginez que vous venez de boire votre café et que vous allez attraper une cigarette. Imaginez le désir que vous avez de cette cigarette. On va mesurer l'intensité, tapoter, même si je veux fumer lorsque je bois du café, ou bien même si j'ai le désir de fumer après le dîner. Ensuite, on peut inverser le test. On peut s'imaginer incapable de fumer à cet instant-là, enfin incapable parce que par exemple il n'y a pas de cigarette. Hein? Mesurer l'intensité qui résulte de la privation ou la perte. Les fumeurs se souviennent ou savent bien, et je sais de quoi je parle puisque moi j'ai fumé un certain nombre d'années dans ma vie, et les samedis soirs où on se retrouve sans cigarette et sans possibilité d'aller l'acheter, on fouille de toutes les poches, on récupérerait pas que les mégots parfois, quand on est bien accro. Hein. Voilà.
Alors, c'est pareil, là, tu aurais bien voulu connaître l'EFT à l'époque.
Ah oui, que oui, alors là oui, oui, vraiment, ça m'aurait vraiment aidé. Et j'ai arrêté, moi, c'était en 94, alors donc, ça fait hein, bien avant de connaître l'EFT.
D'accord.
Et donc, on va mesurer l'intensité qui résulte de cette privation plutôt que du désir que l'on a du besoin de fumer. Après, on peut imaginer, on peut jouer beaucoup avec l'EFT. Je préfère le mot jouer que le mot travailler, mais bon, les deux se rejoignent. On peut demander à la personne quelle est sa théorie sur la situation qui provoque son besoin. Hein? Mm-hmm. Que pensez-vous de la sensation qui fait que vous avez envie de fumer à ce moment-là? Pourquoi précisément? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bon, c'est le jeu des questions-réponses, sans trop réfléchir. Hein. On va noter ce qui remonte, hein, à l'idée de qu'il n'y a pas de possibilité de fumer. Eh bien, ça peut être même si je me sens triste, ou même si j'ai de la peur, ou même si j'ai cette anxiété de ne plus avoir, et on va continuer avec l'histoire, avec ce qui remonte, hein. Même si je n'ai plus de refuge, même si je n'ai plus d'endroit pour me rebeller, ou même si je ne sais pas comment me rebeller sans la cigarette. Hein. Diverses pistes, toutes simples encore, que j'ai essayé de noter, même si une cigarette est une récompense, ou bien... Oui, ça c'est clair.
La notion de pause.
Oui, tout à fait. Ou même si je me sers de la cigarette pour enfouir mes sensations. C'est vrai, c'est comme si toutes mes émotions partaient en fumée, mais ne plus penser, me sentir bien, même si les cigarettes sont source de réconfort. Et puis, j'aime bien alterner dans un tapping sur la cigarette, ou enfin un tapotement, la cigarette plaisir avec la cigarette poison. Enfin, je prendrai les mots que la personne va me dire, hein. Et si elle veut arrêter pour des raisons de santé, cigarette, moi je dis poison, mais peut-être qu'elle dira la cigarette maladie, hein, eh bien, je vais tapoter cette cigarette plaisir. Je l'aime tellement, cette cigarette plaisir. Ah, oh, cette cigarette. Cigarette plaisir, oui, mais cigarette poison. Et je ferai une ronde, cigarette plaisir, cigarette poison, cigarette plaisir, cigarette poison. Et je pourrais faire la même chose avec cette cigarette présence, ou que cette cigarette manque, hein, qui dépend de ce qui va s'amener. Et curieusement, après ce genre de ronde, il y a bien des personnes qui me disent planer. Oui. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était décroché, elles ne savent plus très bien de quel côté pencher. Ça peut arriver.
Oui, ça m'est arrivé aussi. J'ai fait une démonstration avec une amie, pareil, qui n'avait pas l'intention d'arrêter de fumer, mais elle était curieuse. Donc on a fait une ronde et après elle m'a dit c'est comme si j'avais fumé mais en mieux.
Voilà. C'est exactement ça.
Alors ce que tu décris, Joanne, c'est le travail qu'on peut faire dans une séance individuelle, ce travail de détective justement et d'aller avec ce qui se présente pour la personne. Et qu'en dirais-tu d'un travail en groupe par rapport au problème de dépendance?
Ah oui, ça c'est très intéressant parce que c'est bien de combiner les deux. Un travail de groupe sur un comportement addictif a ceci d'intéressant, c'est que chacun va apporter des éléments remontant de sa propre histoire et on se rend compte chaque fois qu'on travaille en groupe que l'histoire de l'un a un impact sur l'histoire de l'autre. Il y a une sorte d'interconnexion qui se crée et ça permet de travailler sur bien plus d'aspects que si on fait une simple séance individuelle. Moi, je dirais qu'une séance de groupe permet souvent d'aller plus vite pour lever le gros du problème. Mais ça n'exclut pas qu'après, il peut y avoir l'intérêt à faire une séance plus personnelle. Tout dépendra des situations. Moi, je trouve que le travail de groupe sur un thème précis, par exemple l'addiction au chocolat ou l'addiction à un comportement, à une substance alimentaire ou une addiction à la cigarette, peut avoir cet intérêt-là, d'aller plus vite, traquer les résistances. On s'aperçoit que le mécanisme de la dépendance reste le même de toute façon. Et donc, c'est rassurant. La personne peut trouver moins de culpabilité aussi, à voir que, bon, il y a un comportement apparemment enfermant. Mais hop, dans bien des cas, on va pouvoir trouver des clés pour rouvrir. Moi, je voudrais juste dire que l'EFT s'inscrit dans des outils de psychologie énergétique et permet d'acquérir justement un nouveau regard sur les choses. Et ça devient possible parce que justement, le stress, la peur, l'anxiété laissent la place à autre chose. Et alors, on peut choisir. On peut choisir entre la peur d'un côté et l'amour, la paix de l'autre. Et si nous avons créé le problème, nous sommes capables de le décréer. Oui, c'est un néologisme, on dit généralement le résoudre, mais moi je veux bien dire qu'on est capable de démolir tout l'échafaudage, tout cet échafaudage que la partie qui a peur a mis en place au niveau inconscient, en mettant dans la réalité les empreintes émotionnelles qui étaient à l'état brut. Et quand on travaille en groupe, eh bien on va pouvoir observer aussi ce phénomène se dérouler chez les autres. Et du coup, c'est vraiment porteur d'encouragement, moi je trouve.
Oui.
Après.
Oui, tout à fait.
On peut ne pas vouloir. On peut être gêné de le faire en groupe, mais en fait, moi je ne trouve. Enfin, les personnes qui viennent généralement n'en trouvent que du bénéfice. Hein.
Oui, voilà, et puis avec l'EFT, on a l'énorme avantage des bénéfices partagés.
Et qui
consiste à parler d'un problème, mais même si dans le groupe tout le monde n'a pas envie ou n'a pas le temps de s'exprimer, tout le monde peut profiter de ce qui se passe.
Oui. Et oui, et quand c'est sur un thème identique, les bénéfices partagés sont d'autant plus importants qu'il y a cette ouverture. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est vrai, les bénéfices partagés, on peut les avoir sur des problèmes différents déjà. Alors, oui, c'est sûr. Ça permet de lever plus d'aspects. Ce qu'on appelle les aspects, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'EFT, c'est les différents facteurs qui entrent en jeu dans un événement. Enfin, ici, une dépendance. Je citais tout à l'heure l'aspect olfactif, l'aspect gustatif, l'aspect environnemental, enfin, tous les éléments qui rentrent dans cette mémoire par association. Et parfois, je peux avoir occulté complètement quelque chose qui me concerne, mais le voisin, lui, va en parler, et du coup, ça va faire écho chez moi. Et c'est ces fameux bienfaits partagés, oui.
Tout à fait. Alors, en conclusion, Joanne, est-ce que tu aurais quelques conseils pour les personnes qui débutent dans l'EFT, pour les personnes qui découvrent peut-être l'EFT lors de ce congrès et qui se demandent comment utiliser cet outil au mieux?
Oh oui, il y a des tas de conseils qu'on peut donner. Tu rappelais en début quelque chose que je voudrais redire encore, c'est que les débutants ne doivent pas oublier que l'EFT n'a pas pour visée de se substituer à un traitement ou une assistance médicale dans le cas d'un sevrage à des drogues dures, par exemple. Ça me paraît important de bien le souligner. Les débutants sont avisés de prendre en compte cet aspect. Mais gardez à l'esprit que la contribution de l'EFT peut être absolument surprenante.
Après, en complément.
Après je disais tout à l'heure que l'EFT peut être pratiqué par tous, mais qu'une compréhension de base permet quand même de meilleurs résultats. Donc, de nombreux supports sont disponibles sur Internet, mais je dirais quand même qu'un petit atelier de découverte des approches de base, au moins, peut être une aide très appréciable parce qu'elle va donner rapidement les bons, de meilleures manières d'aller traquer la difficulté. Après, je dirais, et ça j'aimerais bien insister là-dessus, de ne pas croire surtout que les résultats procèdent de mots magiques que l'on emploie dans le tapotement EFT pour déjouer ou dénouer le problème. Moi, je reçois parfois des commentaires où je lis sur des forums des questions comme quelle phrase je dois dire, quel mot je dois prononcer pour. Et c'est pas du tout ça l'EFT. Hein. L'EFT utilise des mots, bien évidemment, mais si on les a pas, on va pouvoir utiliser des gestes ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Les mots sont juste là pour permettre de se mettre en contact avec l'émotion, la sensation, la peur, la culpabilité. C'est juste une façon de crocheter ça. Mais l'EFT vise surtout le mot qu'on utilise à l'EFT vise à faire couler l'émotion, l'inconfort ressenti. Alors oui, un mot peut avoir un impact sur nous, comme un écho à notre émotionnel. Ça, c'est ce que savent intuitivement tous les poètes, hein, qui savent jouer avec ces mots pour aller chercher notre sensibilité. Mais ce n'est pas du tout ce qui est au cœur d'une séance de EFT. Ce n'est pas le mot juste. Hein. Alors, ça, c'est important moi, je trouve que de rassurer les débutants avec ça. C'est l'émotion qu'on
oui.
cherche. Peu importe si
oui,
on n'a pas le bon
fait.
Mot. Ce qui importe, c'est ce que moi, je mets derrière le mot. Après, ben, l'erreur du débutant, c'est peut-être de croire que les affirmations positives sont importantes et essentielles dans une séance d'EFT. Moi, je voudrais rappeler que l'EFT s'occupe d'abord des émotions négatives. Et l'erreur du débutant, c'est de faire des affirmations positives en priorité, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on dit « même si j'ai cette envie de cigarette ou même si j'ai ce problème », je suis quelqu'un de bien, je m'aime, je m'accepte profondément. Très bien, on peut le dire, mais ce qui est important, c'est la première partie, l'émotion négative. Et c'est ça que d'abord, dans un premier temps, je veux faire couler. Donc, le plus efficace, c'est de tapoter, non pas sur le positif, mais sur le dérangement maximal. Par exemple, le goût marqué pour un aliment, je peux sentir la salive ou les papilles qui réclament dans la bouche, au mieux me mettre devant l'aliment, au lieu de vouloir me sentir fort pour me rassurer. C'est vraiment oui. tout à fait le contraire. Alors, j'ajouterais quand même, si on a encore quelques minutes, que ce qui
oui,
est quand même
merci.
Intéressant... Oui. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans un deuxième temps, je peux effectivement voir comment l'EFT peut nous libérer plus profondément. Lorsque j'ai fait couler l'émotion la plus large, lorsque j'ai bien réduit tout ça, je peux aller au-delà, dégager, au-delà de tout ce qui nous obsède, de tout ce qui nous aliène, de tout ce qui nous coupe de notre potentiel, je peux aller justement rencontrer le vrai soi pour tisser davantage tout mes possibles, tisser la conscience à l'évolution. Parce qu'on peut être, je vais élargir un petit peu ce qu'on a dit sur les dépendances, on parlait de dépendances bien précises, mais on peut être totalement dépendant à des comportements comme la colère, la peur. On peut passer son temps à piaffer, à râler contre tout un tas de personnes qui nous abandonnent, qui nous font des noises. On peut avoir des comportements répétitifs qui visent à se soulager par la médisance, la colère. Ça devient aussi automatique qu'allumer une cigarette. Et je crois que c'est important que les débutants prennent bien conscience de ça. La dépendance, ce n'est pas simplement un objet particulier.
Mmh.
C'est un comportement général. On peut être autant accro à la haine et à la colère qu'à la cigarette ou à la culpabilité. Et ça nous fait recréer à l'infini des situations aux effets dévastateurs sur nos vies. Et il est très avantageux de s'exercer à éprouver du plaisir, du bien-être, de la satisfaction et d'augmenter le taux de sérotonine comme ça. C'est comme ça qu'on va venir déjouer les comportements addictifs. Hein.
Oui.
Et donc, les débutants qui veulent se focaliser véritablement sur juste une situation ont parfois beaucoup à gagner à revenir au processus de paix personnelle.
Mmh.
Ou à rouvrir et quelque part retrouver la paix en eux.
Oui. Ça, de toute façon, c'est toujours une bonne base.
Hein. Mm-hmm. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est pour ça qu'une compréhension de base de l'EFT est quand même souhaitable. Hein. Après, eh bien, un autre aspect de l'EFT, j'ai rien inventé, c'est la persévérance. Hein.
Oui, tout à fait. D'en faire un petit peu tous les jours, par exemple.
Oui, surtout dans le cas des dépendances, surtout.
Oui. Mm-hmm. Bah oui, parce qu'on fume bien ses cigarettes tous les jours, n'est-ce pas?
Oui, particulièrement, oui. Oui, bien sûr, ça c'est un meilleur exemple. Voilà, c'est pour l'essentiel de ce que je pourrais conseiller. Si je reviens à ces affirmations positives que le débutant peut justement mettre en avant plus facilement, c'est peut-être un débutant qui ne connaît pas bien encore l'EFT et qui ne comprend pas vraiment la différence entre le travail sur l'inversion psychologique, cette phase de préparation à la séquence, et ensuite les points de tapotement de la séquence elle-même. Mmh. Effectivement, on est plus tenté, parce que ça nous fait plaisir, de dire des choses comme même si j'ai cette envie de, je choisis maintenant, et on va choisir un vœu pieux tellement éloigné de nous qu'il n'arrive jamais, quoi. Je choisis maintenant.
Oui, et on se fixe la barre haute dès le départ, on ne va pas y arriver.
Et oui, ça ne sert strictement à rien dans ce cas-là.
Oui, tout à fait.
Il faut l'amener quand c'est le moment. Voilà, c'est juste ça la
voilà. Petite astuce. Et il faut avancer à son propre rythme.
Oui. Et c'est tout simple, l'EFT. Il ne faut pas vouloir les choses. Il ne faut pas avoir d'attente par rapport à ça. Il faut simplement rencontrer l'émotion. Et même si je me déteste quand je fume ces cigarettes, et même si je me sens tellement rien du tout quand je cède à n'importe quel comportement ou quand je dévore la plaque de chocolat tous les soirs, je m'aime quand même. Voilà. Et ça paraît complètement incohérent, mais non, c'est comme ça, c'est l'acceptation.
Oui, parce que c'est la réalité.
Et c'est la réalité. Je ne suis pas ma dépendance, mais j'ai un comportement de dépendance. Ah oui, tiens, un petit conseil de plus qui me vient à l'esprit. Dire « je suis », par exemple, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui dirait « je suis alcoolique », ben, c'est surtout pas ce qui est à faire. Mais j'ai un comportement d'addiction à l'alcool, mais j'ai un comportement où j'ai... le verbe « avoir » est toujours mieux que le verbe « être ». Je ne suis
pas. Et ça pose la distinction entre la personne qui boit et la personne qui ne veut pas boire. Il y a bien plusieurs acteurs là-dedans.
Oui, et voilà. Et puis ça pose aussi la distinction entre le comportement et moi-même. C'est-à-dire, je ne suis pas mon comportement. J'ai un comportement.
Oui.
J'ai un comportement d'alcoolique, ou j'ai un comportement avec l'alcool, ou j'ai un comportement face à l'alcool.
Et donc, je peux m'en défaire.
Ah. Voilà. Mais moi, je ne suis pas ce comportement. J'ai la possibilité de reprendre les commandes. Qui est le chef?
Oui, c'est très important.
Y a-t-il encore un pilote dans l'habitacle?
Oui. Alors, on va rappeler le pilote.
Dans l'EFT, c'est de faire ce chemin de l'anxiété et du stress jusqu'à la paix retrouvée. Et là, il y a l'action possible de toutes les pratiques énergétiques, l'EFT notamment, mais pas seulement. Moi, c'est vrai que souvent, j'aime bien marier l'EFT avec certaines autres pratiques ou certains outils, comme le TAT, le Zen Sight, une vision au Ho'oponopono. Ben, à partir du moment où on est entré dans ce domaine, c'est tellement vaste, tellement magnifique qu'on ne peut pas s'empêcher, quoi.
Tout à fait. Ah ben oui,
on deviendrait habitué à l'EFT.
Et ben merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, Joanne.
Merci à toi.
Alors Martha. Je rappelle que Joanne reçoit dans son cabinet à Agen, dans le sud de la France, et également par téléphone. Et elle donne aussi régulièrement des formations d'EFT et elle a généreusement offert 10 bons de réduction pour ses formations au congrès virtuel. Merci beaucoup, Joanne.
Merci.
Et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur la page d'experts sur le site du congrès virtuel eft-le-congrès.com. Et bien sûr, vous trouverez aussi sur ce site toutes les coordonnées du blog de Joanne pour la contacter pour une formation ou des consultations si vous avez envie d'aller plus loin dans ces problématiques. Merci beaucoup, Joanne.
Merci, Maria.
Et merci à tous d'avoir été avec nous. Et j'espère que vous mettrez toutes ces connaissances en application dans votre vie dès aujourd'hui. Je suis Maria Hanel et je vous donne rendez-vous à la prochaine téléconférence du premier congrès virtuel francophone d'EFT. Et en attendant, tapotez-vous bien. À bientôt.